nom de l'histoire, c'est au nom de la dimension irréductiblement incarnée de leur existence que les femmes ont été considérées comme des êtres mineurs et dépendants. Enfermées dans leur nature sexuelle et procréatrice, on ne leur a longtemps reconnu d'autre rôle social que celui qu'elles assumaient au sein du foyer. Prendre soin des enfants et de leur père, les nourrir et s'occuper de leur linge, nettoyer et entretenir leur maison, en un mot, garantir la vie même des membres de la famille au niveau immédiat de ses conditions matérielles comme au niveau plus souterrain de ses besoins affectifs. Camille Froidevaux-Métry est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Un corps à soi ». Et en seconde partie d'émission, elle sera rejointe par Inès Orcani qui sort ces jours-ci un livre intitulé « Gazelle théorie ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera avec Patti Smith.
Stretch out our arms and we're all in a pane of glass, an asphyxiation.
important que le vôtre, Camille Froidevaux-Métry, vous sortez un gros livre important sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan philosophique aussi. Quand avez-vous compris que vous étiez de l'autre sexe, c'est-à-dire du sexe qui n'était pas dominant? À quel âge?
Alors, je crois que je l'ai compris comme un problème un peu tardivement par la maternité, qui m'a fait prendre conscience que, tout en devenant un sujet social comme les autres, c'est-à-dire donc j'étais dans mon début de trentaine et je commençais à enseigner à l'université, j'étais également une femme puisque, en l'occurrence, j'attendais un enfant. Et que de vivre ces deux conditions sociales et maternelles simultanément m'est apparu comme une étrangeté parce que je le vivais de façon compliquée, mais qu'autour de moi tout le monde avait l'air de trouver que c'était des choses qui devaient être tues parce que soi-disant normales alors qu'elles ne le sont pas. Et je me suis à partir de là interrogée sur cette cette condition assez inédite hein, à l'échelle de l'histoire de l'humanité qui est celle des femmes d'aujourd'hui qui sont bien des sujets libres et égaux en tout cas dans les principes mais qui continuent par-delà même un certain nombre de grands tournants, par-delà même celui de la révolution démocratique, par-delà même celui de la révolution féministe des années 70 aussi, qui continue d'être définie comme des individus incarnés, d'être définis par leurs deux fonctions sexuelles et maternelles.
Et donc, à ce moment-là, il y a eu un basculement de votre propre perception du monde. Vous le racontez à l'intérieur de ce livre et vous avez changé de camp. Je veux dire par là que vous avez changé de sujet d'étude et vous avez basculé vers une histoire du féminisme.
Oui, parce que quand je m'interrogeais au moment où je le vivais moi-même sur cette condition, la première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'était de me plonger dans la littérature disponible, la pensée féministe, les études de genre qui commençaient d'arriver en France. Hein, on était au début des années 2000. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas beaucoup de réponses à mes interrogations autour de la maternité notamment. Et au-delà de la maternité, ce qui m'a frappé très vite, c'est que c'était toutes les thématiques corporelles qui finalement avaient été comme un petit peu mises de côté dans le champ féministe. Bon, on sait que c'était le sujet crucial hein, des années 70. Quelques 40 ans plus tard, il y avait comme une étrange réticence dans le champ féministe lui-même à penser le corps des femmes autrement que comme un lieu de domination. C'est-à-dire que moi, ce que j'essayais de vivre, c'est-à-dire une condition libre, mais qui était aussi incarnée, une condition dans laquelle je tenais ensemble ma vie sociale, professionnelle et ma vie maternelle et familiale, eh bien ça, c'était pas pensé. Et il est arrivé un moment où je me suis dit que je pouvais peut-être contribuer à la réflexion dans le champ féministe et donc j'ai fait cette conversion thématique.
Non seulement ce n'était pas pensé, mais c'était quelque chose qui était tabou à l'intérieur de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Ne pas avoir d'enfant était une condition d'émancipation. On reviendra à l'importance que vous accordez à juste titre à Simone de Beauvoir, mais aussi à quelques impasses théoriques sur des pistes qu'elle nous a proposées. Et à l'intérieur du mouvement de libération des femmes, il y avait des groupes féministes qui disaient que avoir des enfants était obligatoirement une servitude. Donc là, vous arrivez dans l'histoire du féminisme de manière universitaire, de manière théorique et de manière aussi très engagée pour nous dire que oui, on peut être féministe et être mère, ce n'est pas une contradiction, bien au contraire.
Je dis même un petit peu plus que cela, si vous me permettez, c'est-à-dire que non seulement c'est pas une contradiction, mais en fait, ce que j'essaie de penser, c'est que toutes ces thématiques corporelles qui font notre quotidien, la maternité bien sûr, mais aussi la question de l'apparence, mais aussi la question de la sexualité, notamment de l'hétérosexualité, tout ce qui nous occupe de façon si évidente chaque jour, n'était pas pensé sous l'angle de l'émancipation, mais quasi uniquement sous l'angle de l'aliénation. Dans la perspective phénoménologique que j'essaye de développer, ce dont il s'agit précisément, c'est de penser le corps des femmes, mais sous ces deux aspects, de lieu par excellence de la domination masculine, qu'il est bel et bien, mais comme vecteur d'émancipation qu'il doit être aussi, et cela permet de revisiter toutes ces expériences vécues, notamment l'expérience maternelle, mais aussi l'expérience hétérosexuelle, etc., au prisme de la libération, et de mettre au jour tous les mécanismes qui, souterrainement, continuaient d'enfermer les femmes dans leur corps, continuaient de définir les femmes comme étant des corps à disposition.
Alors justement, les femmes sont des sujets de droit, même si on l'ignore hélas encore beaucoup aujourd'hui. Ce sont des sujets pensants, ce sont aussi des corps, et toute votre démonstration, pendant plus de 600 pages, c'est de nous montrer que c'est encore un combat de récupérer son corps à soi. Votre livre s'intitule « Un corps à soi » et c'est un mot très très fort, c'est un véritable combat que de s'apercevoir qu'on a un corps à soi, qui n'est pas à disposition, comme vous venez de le dire, à tous les autres qui veulent le désirer. Et s'il y a bien des femmes en ce moment qui, dans l'actualité, prouvent qu'elles ont un corps, une tête, une âme, un courage physique, intellectuel et psychique absolument extraordinaire, ce sont les femmes d'Afghanistan. Je vous propose d'écouter ce reportage qui date d'avant-hier dans les rues de Kaboul.
La plupart des salons de beauté ont fermé. Les photographies de femmes sont recouvertes de peinture. Il faut effacer toute trace de féminité. Dans une petite rue pourtant, derrière de lourds rideaux beige, deux coiffeuses travaillent en cachette.
Venez, rentrez vite, vite, on veut bien vous parler.
À l'intérieur, les lumières sont éteintes. Nina Edisha maquille et coiffe une Afghane qui va se marier.
Les Afghanes ont besoin de nous, mais on ne peut plus travailler librement. Alors on se cache et on travaille avec la peur au ventre.
Les talibans n'acceptent pas les salons de beauté ?
Non, impossible.
Impossible, la vie d'avant. Nous nous rendons dans un faubourg de Kaboul. Shukriya est professeure d'université. Depuis 3 semaines, elle reste chez elle. Elle veut témoigner à visage découvert, malgré les risques. Elle nous explique qu'elle a rangé tous ses vêtements à l'occidental.
Ça, c'est mon jean que je portais avant. Je l'adorais.
Les chaussures rouges à talons comme ça, c'est interdit. Hein.
Ah oui, les chaussures comme ça avec les talibans, ce n'est plus possible. Et quand je sors maintenant, je dissimule mon visage. Sous ce voile, c'est plus prudent.
Shukriya ne travaille plus. Les talibans ont fermé toutes les universités. Elle est très inquiète pour le futur.
Les femmes présentatrices ont déjà disparu de la télévision. Et il n'y a plus de dessins animés pour les enfants. Alors bien sûr que les talibans vont changer le système d'éducation. Ce sera religieux. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne vois aucun futur pour moi.
Et Shukriya pense que les talibans n'ont pas changé sur la question des femmes, contrairement à ce qu'ils disent.
Ils ont déjà détruit tout ce que nous, les femmes, avons construit depuis 20 ans pour améliorer nos droits et nos conditions de vie. Ils ont pris notre dignité. Envoyez ce message au monde. Il faut nous sauver.
C'était un reportage de Liseron Boudoul sur la situation en Afghanistan. Ce week-end, des femmes ont continué à aller manifester par petits groupes dans les rues des différentes villes d'Afghanistan. Elles ont été dispersées, plus ou moins violemment, plus que moins d'ailleurs. D'autres femmes dont on connaît pas le visage puisqu'elles se sont enfermées derrière des niqabs à l'intérieur de certaines universités ont voulu défendre les conditions imposées aux femmes, c'est-à-dire l'invisibilité totale et défendre ce régime qui vient d'arriver. Que pensez-vous de cette situation? Et d'autre part, pensez-vous que, historiquement, depuis l'aube de la Révolution française en 1789 jusqu'à aujourd'hui, ces jours derniers, les femmes, avec leur corps, leur esprit de résistance, ont toujours été aux avant-gardes des combats pour la liberté?
Ce qui est très frappant dans ce reportage, qui se situe dans un salon de beauté, c'est qu'il met au jour, précisément, l'autre versant de la corporéité féminine sur son versant émancipatoire. Dans le monde occidental et singulièrement dans le champ féministe, on a tendance à considérer que le soin que les femmes prennent de leur apparence correspond à une soumission aux diktats masculins et patriarcaux, ce qui n'est pas faux en soi, mais ce n'est pas que ça. J'essaye de penser précisément ce souci de l'apparence comme un projet de coïncidence à soi, et on voit bien avec ces femmes afghanes ce qu'on leur enlève, cette quasi-mutilation qu'on leur impose en leur interdisant désormais de prendre soin d'elles et de considérer leur propre corps comme un lieu digne. Elle évoque cette question de dignité, c'est-à-dire qu'elles sont niées, non seulement dans leur être de sujet de droit, mais j'allais même dire, dans, même dans leur conditions incarnées, elles ne sont
mais
plus...
Mais dans leur intimité, et leur, l'intimité des femmes est politique, dites-vous.
Oui, absolument. Je crois que c'est le moment qui... Enfin, c'est la formule qui définit le moment où nous sommes dans l'histoire du féminisme. Les années 70, c'était le moment du privé et politique. Le moment que nous vivons depuis le début des années 2010, c'est très spécifiquement, je crois, un moment où les femmes se saisissent de tout ce qui fait leur existence très intime, jusque dans la dans ces dimensions génitales, sexuelles, mais aussi au niveau de la maternité, etc. Mais là, pour ces femmes-là, on en est même plus là. C'est-à-dire que ce qui tout est nié en elles, leur être social, leur être privé, leur être intime, et ce que l'on observe et qui est fascinant et en même temps, on se demande comment faire pour les aider, c'est à quel point elles ont choisi de résister. Et je crois effectivement que les femmes sont, on a recouvert la mémoire des femmes combattantes de notre histoire, et il y en a eu beaucoup. Et je crois que ce type de circonstances nous rappelle utilement hein, que les femmes ne sont loin d'être restées soumises à travers l'histoire.
Alors votre livre est passionnant à bien des titres et aussi par la relecture que vous faites de certains textes théoriques appartenant à l'histoire du féminisme. Et en premier, évidemment, Simone de Beauvoir, Camille Froidevaux-Métrie. Vous analysez l'œuvre de Simone de Beauvoir en ne la réduisant pas aux clichés dont on l'affuble encore aujourd'hui ou à quelques formules, mais vous la resituez à l'intérieur d'un mouvement philosophique très profond qui servait de tissu interstitiel finalement à comprendre la perception du corps et à comprendre le combat qu'elle menait, c'est-à-dire le mouvement existentialiste, le mouvement phénoménologique. Je vous propose d'écouter la voix de Simone de Beauvoir à propos des différences biologiques et corporelles des femmes et des hommes et de l'oppression induite. C'est une archive INA du 6 avril 1975. C'était au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber.
L'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Ça remonte à la nuit des temps. Je crois qu'il faut partir de l'idée que, comme on l'a dit, l'homme est un loup pour l'homme, il existe la rareté, il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors les plus forts, et il y a eu un moment dans la nuit des temps où la force physique, ça comptait énormément, les plus forts se sont appropriés les droits, le pouvoir, de manière à avoir également de la prééminence économique, grossièrement pour être ceux qui seraient toujours sûrs de manger. C'était très visible en Chine, par exemple, où il y avait une grande pauvreté, et on laissait mourir, si non, on tuait les petites filles, et on empêchait les femmes de participer à la production, de manière à ce que l'homme ait vraiment tout en main. Ça a été comme ça, toujours, et ça, je n'ai pas le temps de raconter ici toute l'histoire de la femme, mais il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Je n'en citerai qu'un exemple. Au Moyen-Âge, et dans les siècles, enfin, à la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elle connaissait des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonnes femmes et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on les acceptait pas. Alors les femmes, à ce moment-là, se sont vues reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide-assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a eu une volonté, puisque vous parliez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine aux femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc en effet une volonté, et maintenant, cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
Nous venons d'entendre la voix de Simone de Beauvoir, c'était en 1975. Nous sommes en 2021, Camille Froidevaux-Métrie. Vous restituez la force intellectuelle et le travail incomparable et encyclopédique de Simone de Beauvoir qui parle de toutes les situations sous toutes les latitudes, dans tous les continents, dans le deuxième sexe. mais surtout vous pointez la puissance de la pensée de Simone de Beauvoir, émancipatrice.
Oui, parce que c'est elle qui a posé le socle de ce qu'allait devenir le combat féministe à partir de sa deuxième vague dans les années 70, en rappelant, comme elle le fait aussi dans cet extrait, que depuis l'aube des temps, les hommes ont organisé la vie en commun de façon hiérarchiquement sexuée, en enfermant les femmes dans la sphère privée, considérée comme inférieure, et en se réservant les privilèges de la sphère publique. Cette bipartition, cette division sexuée du monde, c'est ça le schéma patriarcal. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui dans les mouvements féministes actuels de renverser le patriarcat, c'est important de dire de quoi on parle. Il s'agit, et c'est pour ça que le mot de révolution n'est pas trop fort pour qualifier ce que nous sommes en train de vivre, il s'agit de renverser cette structuration binaire et hiérarchisée du monde qui a été définie dès l'Antiquité grecque et qui s'est nourrie de réinterprétations et de redéfinitions à travers les siècles, y compris dans les moments comme celui de la révolution démocratique, sous la plume de Rousseau par exemple, qui va fournir une forme de justification moderne au schéma patriarcal. Une fois qu'on a repéré que le problème, c'est ce socle de cette répartition des compétences qui se fait toujours au détriment des femmes et qui se fait toujours au privilège des hommes, eh bien, on comprend que le combat féministe va consister à détruire, et le mot n'est pas trop fort, cette base patriarcale dont nous ne sommes toujours pas débarrassés. Et Simone de Beauvoir est la première à le mettre au jour, et après elle, enfin voilà, toutes les féministes vont partir de ce constat pour tenter de détruire, déconstruire, défaire un à un tous les mécanismes, tous les ressorts qui, dans tous les domaines de l'existence, perpétuent et nourrissent cet ordonnancement hiérarchiquement sexué.
Alors vous, Camille, vous êtes philosophe, vous êtes une intellectuelle, vous êtes une enseignante, une professeure d'université, et vous êtes aussi une femme, avec un corps, avec une histoire de ce corps, avec des désarrois, des souffrances, des moments où ça n'a pas été bien du tout pour vous, et vous mettez en pratique vos propres théories, c'est-à-dire que vous faites partager aux lectrices et aux lecteurs, à l'intérieur de cet ouvrage, des moments de votre vie où ce qui vous est arrivé de très douloureux vous a fait basculer dans une autre perception du monde. Et je trouve ça très courageux qu'une intellectuelle puisse parler d'elle-même pour pouvoir nourrir et considérer ses propres théories à l'aune de ce qu'elle a enduré. Quelle a été la décision qui vous a permis de parler de la souffrance, de la perte d'un enfant, d'une fausse couche et de choses beaucoup très intimes qui vous sont arrivées en propre comme, et non pas simplement au figuré, Camille Froide-Vaumétry.
Alors j'ai choisi d'écrire ce livre en première personne, c'est-à-dire pas seulement dire « je » à la première personne, mais en première personne, c'est-à-dire en acceptant de livrer quelques récits, quelques expériences vécues qui ont été les miennes, que je fais résonner d'ailleurs avec d'autres récits d'autres femmes, c'est pas seulement ma voix propre. C'est une démarche, disons, proprement méthodologique, puisqu'elle souscrit à deux exigences. D'abord, du côté de la phénoménologie, où il s'agit toujours de parler dans une perspective incarnée et située. Donc, c'est-à-dire que la phénoménologie est un courant de la philosophie qui considère que la pensée ne surgit pas du ciel idéal des idées, mais qu'elle est toujours nécessairement incarnée et située, c'est-à-dire aussi dans une époque donnée. Et puis, dans le champ féministe aussi, c'est par le passage du partage des expériences vécues, comme le faisaient par exemple les féministes des années 70 dans ces groupes de conscientisation qui étaient des réunions non mixtes lors desquelles elles échangeaient sur des expériences communes, qui permettaient par la mise en commun de toutes ces voix à la première personne une prise de conscience politique et le passage ensuite à l'action et à la lutte. Et je trouve que c'est d'une certaine façon peut-être comme ça que je définirais une philosophie féministe, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui ne peut pas faire abstraction de l'incarnation et donc aussi de la dimension biographique et très intime de celle qui pense.
Alors à l'aube de la révolution féministe des années 70, il y a eu des femmes écrivaines, psychanalystes, intellectuelles, praticiennes, qui ont essayé de réfléchir à haute voix, effectivement de manière communautaire, à ce qui leur arrivait et à la possibilité de transmettre leur désir de combat vis-à-vis d'autres cercles de la société en s'adressant aux femmes. Parmi elles, il y avait une femme qui s'est posé la question, finalement assez simple, mais elle fut la première peut-être à la penser, à se dire, mais comment peut-on penser ce qui nous arrive au niveau de cette oppression ancestrale qui nous étreint depuis si longtemps, si nous n'adoptons pas une autre langue que la langue commune des hommes et des femmes. Elle s'appelait Monique Wittig, je vous propose de l'écouter. Elle réfléchissait alors à ce que ça veut dire d'être une femme écrivain écrivant dans un monde patriarcal. C'est une archive INA du 4 janvier 1973 et c'était au micro d'Anne Thomas.
On n'a pas ça comme des tabous. Il me semble que quand on se met devant une feuille pour écrire, on a vraiment tout le poids du monde sur les épaules. Vraiment, c'est oui. Le cas de le dire parce qu'on emploie d'abord un matériau qui est le langage. Ce n'est pas des couleurs, ce n'est pas... de la photographie, c'est vraiment quelque chose qui est complètement connoté, c'est-à-dire un langage tout constitué, avec ses phrases, avec sa structure, avec sa grammaire, et que c'est un instrument qui n'est pas le nôtre, qui ne nous appartient pas. D'ailleurs, elle dit à un moment donné, il n'arrive jamais à une femme, quand elle marche dans la rue ou quand elle fait ceci ou cela, de ne pas se dissocier complètement, de ne pas se sentir étrangère à son monde. Ça arrive tout le temps, cette coupure. Oui. Je trouve que l'expérience d'une femme, et en particulier d'une femme écrivaine, est complètement schizophrène. Il faut toujours faire la coupure entre les deux. D'une part, employer un langage qui n'est pas le nôtre, essayer de s'insérer dans une culture qui n'est absolument pas la nôtre, que nous n'avons même pas choisie, qui est une culture patriarcale par essence. Et je ne vois pas comment on peut s'abstraire de ça. Enfin, je trouve qu'il y a une coupure complète entre le fait de cette culture qui pèse sur nous si fort, avec toutes ces contraintes, toutes ces fascinations pour une certaine érudition, pour une certaine pratique du langage, etc., Et la lutte qu'on mène sur un autre plan, enfin, qui est de casser tout ça, d'essayer de faire passer dans ce langage et avec ce langage autre chose, enfin.
Alors, il ne s'agit pas du tout d'écriture inclusive ou de féminisation de certains mots, mais il s'agit bien, comme vient de le dire Monique Wittig, auteur notamment de l'Opoponax et d'autres textes fort savoureux, de casser le langage qui est le nôtre. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour pouvoir penser le devenir du féminisme, Camille Froide-Vaumétry. Trouver notre langue, nous les femmes.
Oui, alors, vous me permettrez juste j'ai envie de répondre, mais un petit peu par un autre bout, parce que je crois qu'elle a fait bien davantage que de casser le langage qui est le nôtre, Monique Wittig. Elle a fait cette proposition de se débarrasser de cet enfermement dans la condition féminine. Il y a une phrase évidemment qui est fameuse, mais sur laquelle je voudrais revenir parce qu'elle permet de comprendre bien des choses. Cette fameuse phrase dans laquelle elle dit que la lesbienne n'est pas une femme. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est que parce que les lesbiennes échappent à la conjugalité hétérosexuelle d'une part, à la maternité également, en tout cas à l'époque d'autre part, elles s'extirpent du cadre patriarcal qui leur était imposé et elles se donnent les moyens de vivre une existence vraiment libérée vis-à-vis de toutes ces contraintes, de ces diktats et de ces assignations. Je crois qu'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de prendre au sérieux cette question du féminin. J'essaie dans le livre justement de redéfinir cet adjectif qui est assez problématique dans le champ féministe, hein, parce que on l'assimile souvent à la féminité. Quand je parle de corps féminin et quand je dis que je suis une femme, je n'ai derrière ces propos aucune visée d'enfermement dans une catégorie et encore moins de différentialisme ou d'essentialisme. Je désigne avec cet adjectif féminin cette condition d'objectivation corporelle qui est celle des femmes depuis toujours. Tant et si bien que quand je parle de corps féminin, cela concerne des femmes comme moi, c'est-à-dire hétérosexuelles, cisgenres, mères de famille, mais également des femmes trans, ou des femmes lesbiennes, ou des femmes handicapées, ou des femmes racisées. C'est-à-dire que la perspective un peu englobante que je tente de tenir, je dis je tente parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire, hein. Le sujet politique du féminisme n'est pas homogène, on le sait depuis très longtemps, mais il faut néanmoins essayer de comprendre que nous partageons en tout cas toute cette condition d'objectivation et d'aliénation qui font que nous sommes des corps féminins qui ne pouvons, ou en tout cas que difficilement, nous extraire de ce cadre patriarcal qui nous oppresse. Donc casser le langage et les code langagier propre au système patriarcal, mais aussi casser le cadre binaire féminin-masculin qui est celui dont nous avons hérité, non pas pour produire, enfin, non, ça peut produire une forme d'explosion de grande liberté en termes de fluidité des genres, mais il ne s'agit pas de tout renverser et d'aboutir à une civilisation complètement comment dire, dévastée comme certains commentateurs contemporains le redoutent, mais simplement de s'autoriser à penser autre chose, à penser notre condition de femme ailleurs que dans ce cadre binaire.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Camille Froidevaux-Métry, Everybody Dies de Billie Eilish.
Everybody dies, surprise, surprise. We tell each other lies, sometimes we try to make it feel like we might be right. We might not be alone, be alone. Everybody dies, that's what they say. And maybe in a couple hundred years they'll find another way. I just wonder why you'd wanna stay if everybody goes.
J'ai choisi cette chanson. À l'origine, j'avais choisi une autre chanson de Billie Eilish. J'ai changé, j'ai pris celle-ci. Bon, elle est très triste parce que ça correspond à l'état d'esprit dans lequel je suis depuis quelque temps, depuis que mon père nous a quittés de façon un peu soudaine. Mais c'est une chanson qui dit la surprise de la mort, qui dit que les larmes peuvent couler, que c'est normal aussi de sombrer, mais que on n'est pas seul.
Ben merci Camille de cette confiance et merci pour cette très belle chanson qui évidemment nous donne envie de pleurer. Et vous pouvez pleurer comme vous voulez. C'est pas réservé seulement aux femmes de pleurer. Les hommes aussi se cachent pour pleurer. Les femmes se cachent toujours trop pour pleurer. Et c'est aussi l'expression d'une émotion très profonde. Avec vous, Inès, vous nous rejoignez dans cette seconde partie d'émission. Merci infiniment d'être là. Vous sortez ces jours-ci un livre très tonique, très joyeux, très guerrier, qui s'intitule, et très poétique aussi, qui s'intitule Gazelle Théorie. Je vais en lire un très court extrait pour que les auditrices et les auditeurs comprennent l'envolée de ce texte qui nous amène très loin. Il m'appelle gazelle et je me sens blessée. Je ne suis pas un animal, je ne suis pas une chose, je ne suis pas une image, je ne suis pas une proie. La guerre est déclarée, ferait-il mine de l'ignorer? La guerre entre les gazelles et les hommes est-elle déclarée?
Non, ça n'est pas une guerre, c'est une petite provocation, c'est une invitation à mener peut-être un combat, mais au sens d'art martial. Je crois beaucoup à ça. Il y a des règles, c'est aussi un moment dans les arts martiaux où on choisit d'utiliser la violence pour en faire quelque chose de positif, de se battre contre l'autre, mais de jouer aussi avec l'autre, de bousculer son centre de gravité, de bousculer le nôtre pour réinventer une autre façon d'être centré. Donc c'est plutôt une guerre au sens d'art martial. Et ce qui se ressort de ça, ça n'est pas la victoire des gazelles, pas du tout, et la fin des hommes. Camille, tout à l'heure, vous parliez du patriarcat, et puis vous rendez hommage à votre père. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre façon d'être avec nos pères et avec les hommes, et c'est ce qu'espèrent les gazelles, sur un ton ludique et avec un art de la guerre.
Alors un ton ludique, Inès, certes, mais un ton déterminé aussi, et une histoire contemporaine très appuyée à l'intérieur de cet ouvrage, puisque vous rendez hommage à toutes les femmes du Moyen-Orient, à ce printemps arabe qui a permis, encore une fois, on parlait des femmes afghanes en ce début d'émission, mais si on retourne dans un passé proche, qui était en tête de toutes les manifestations dans tout le Moyen-Orient, c'était de nouveau des femmes, des très jeunes femmes, des mères, des grands-mères, etc. Aujourd'hui, les espoirs semblent être un peu douché, mais peut-être pas tellement, en tout cas pas si je vous lis, Inès.
Je crois qu'il y a une force aussi du désespoir. Il y a une détermination du désespoir où on n'espère plus, on veut. Je crois beaucoup à la volonté. Et les femmes que j'ai eu la joie de connaître, avec lesquelles j'ai pu vivre en Tunisie, par exemple, mais aussi en Syrie, où j'ai passé quelques temps, mais il y a bien longtemps, c'était en 2000. Toutes ces femmes-là n'attendaient rien de l'avenir, elles allaient chercher ce qu'elles voulaient dans l'avenir. Mais ce qui m'a aussi intéressée dans le parcours de ces femmes-là, c'est qu'elles vont vers l'avenir en se souvenant du passé, c'est-à-dire en se raccrochant aussi à des figures féministes oubliées, alors quasi méconnues ici.
À la fin de votre ouvrage, vous rendez hommage à une femme que personnellement, hélas, je ne connais pas, que j'ai très envie de rencontrer. Vous lui adressez une lettre en disant qu'elle est votre mère, votre grand-mère, votre figure tutélaire, et que c'est elle qui vous a donné véritablement la possibilité même d'exister, de respirer.
Donc oui, il y en a eu quelques-unes, mais alors je ne sais pas à quelle femme vous faites référence exactement.
Leïla Balbaki.
Ah, Leïla Balbaki. Alors Leïla Balbaki, enfin j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que c'est une étoile filante de la littérature arabe et du féminisme arabe. Elle a écrit un livre qui a bouleversé des générations de jeunes filles comme moi. On ne peut pas la comparer à Beauvoir, parce que Beauvoir a eu une longue carrière. Leïla Balbaki a écrit un livre qui s'intitule « Ana Ahya »,« Je vis, je suis vivante », où elle raconte ses déambulations dans Beyrouth, on est dans les années 50, et la liberté qu'elle prend dans ses rues. Et puis Leïla Balbaki a disparu de la scène littéraire. C'est-à-dire que c'est une femme dont je n'ai plus trace. Ne pouvant pas lui écrire une lettre directement, j'ai écrit une lettre dans ce livre. Et j'en ai écrit quelques-unes aussi, enfin d'autres lettres à des femmes moins connues, mais qui ont aussi permis à des enfants et à des petites filles d'oser tout vouloir. Ne plus rien espérer, mais tout vouloir.
Alors vous êtes une gazelle pensante, Inès, vous êtes une gazelle voyageuse aussi, vous êtes une gazelle guerrière, et comme toutes les femmes, vous avez un corps, j'ai l'impression que ce corps, il est maintenant à vous. Ça a été un long combat que vous restituez à travers ces pages, et notamment à la fin de ce livre, vous parlez d'un voyage que vous faites en solitaire, en prenant des camions, en traversant des déserts, en étant seul au monde, justement pour regarder ce monde sans être forcément la proie des hommes qui vous regardent. Comment avez-vous fait et comment avez-vous réussi ce voyage ?
Parce que se réapproprier son corps, parfois, c'est aussi se réapproprier sa terre. Et le pays de sa naissance, ça a été mon cas, revenir en Tunisie, alors non pas en étrangère, mais en être neutre, peut-être non-genrées, et pouvoir me promener. Alors, dans un premier temps, j'ai parlé en arabe et je me suis rendu compte que le fait que je sois arabophone me situait déjà dans un type de relation avec les gens que je rencontrais. Et puis, je n'ai plus parlé, je n'ai fait qu'écouter. Et là, j'ai pu embrasser ma terre et aussi ne plus me sentir étrangère à cette terre-là. Et de ce fait-là aussi, me rendre compte que mon corps était un pays et que mon pays était un corps.
Vos deux livres se terminent de manière assez optimiste, je dirais. Vous, Camille, vous optez pour une hypothèse résolument, je trouve, militante au sens le plus élémentaire du terme, c'est-à-dire pour un constat positif que les femmes ont réalisé vraiment que leur oppression et que la domination du patriarcat, c'était quelque chose dont il fallait se débarrasser, que ça va peut-être être très long, mais que c'est inéluctable. Est-ce que vous pensez que cet optimisme peut être tempéré par ce qui se passe dans certains pays, par exemple en ce moment en Afghanistan, où je parle du Texas aux États-Unis, où le droit à l'avortement a été sérieusement entamé il y a très peu de temps? On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des réactions aux règles les plus élémentaires de la démocratie, ça s'attaque d'abord au corps des femmes, à la liberté des femmes. Camille?
Alors, on ne se débarrasse pas en cinq décennies et encore moins en quelques mois de millénaires d'objectivation patriarcale. Je suis optimiste, mais surtout ce sur quoi je termine, c'est sur l'importance d'associer les hommes dans le combat féministe. C'est une position qui est pas unanime.
Non, ça va vous faire détester de certaines féministes.
Non, je pense pas détester. Vous... Nous allons discuter ensemble parce que moi je crois à la fécondité de la réflexivité féministe. Nous avons le même objectif et nous avons des propositions théoriques qui sont pas toujours les mêmes.
Et vous n'êtes pas pour autant, excusez de la querelle des mots, mais elle est importante parce qu'elle revêt différentes significations intellectuelles et politiques. Vous n'êtes pas pour autant une tenante de ce qu'on appelle l'universalisme.
Non. Je crois qu'il faut se débarrasser de ce vieux cadre universalisme versus différentialisme, aujourd'hui universalisme versus féminisme intersectionnel soi-disant communautariste. Ça ne fait pas sens. Ce qui est évident, c'est que nos grands principes universels ne s'appliquent pas de façon concrète pour toute une série d'individus, que si on ne fait pas l'effort de penser un universalisme à la fois concret et incarné, on n'arrivera pas très loin. Mais si je tiens tant à la place des hommes dans le féminisme, c'est parce que je crois que dans la bataille qui nous occupe aujourd'hui autour du corps intime des femmes, eh bien, s'ils ne prennent pas leur part, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas de prendre conscience de leur propre responsabilité dans la perpétuation du patriarcat d'abord et de remettre en question leurs privilèges.
Ça
ensuite,
a toujours été le cas, hein, Poulain de la Barre.
Il y en a eu quelques-uns,
Condorcet,
mais là, on est à un moment, je crois, quand même un peu spécifique, parce que je crois qu'ils peuvent. Ils ne peuvent vraiment plus faire comme si le féminisme n'existait pas.
Mais par contre, contrairement aux années 70, où Pierre Bourdieu avait écrit ce livre important, La domination masculine, peu nombreux sont les hommes qui écrivent sur les rouages de la domination masculine sur les femmes.
Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Hein. On a déjà beaucoup réfléchi, nous les autrices féministes, et quand parfois ils prennent la plume...
Donc on n'a pas besoin d'eux, mais on en veut quand même.
Alors, je parle sur le plan de la réflexion féministe, parce que moi, ce que j'ai pu lire, écrit par des hommes sur ces questions-là, c'est que du recyclage d'une pensée qui existe depuis longtemps. Je ne veux pas citer de nom, mais tout le monde comprendra. Je crois que ce dont nous avons besoin, c'est d'une prise de conscience masculine de l'état actuel de notre société, c'est-à-dire de ce scandale de la perpétuation de l'objectivation du corps des femmes dans nos sociétés occidentales soi-disant émancipées.
On n'y arrivera pas sans eux.
Exactement.
Et vous, Inès, est-ce que vous continuez à être optimiste aujourd'hui, malgré l'actualité qui est plutôt sombre en ce qui concerne le sort des femmes? Pensez-vous, comme Camille, qu'il faut intégrer les hommes à ce combat pour pouvoir arriver à desserrer, peut-être pas à faire disparaître tout de suite, mais en tout cas à desserrer cet étau du patriarcat?
Alors, je crois que le mot renversement, moi, me parle un peu moins. Moi, je suis plus pour une neutralisation du rapport de force. J'ai très peur des révolutions qui tournent un peu en rond. On l'a vu en Tunisie. J'ai très peur des renversements qui ne sont pas des dépassements. Donc, j'aimerais qu'on saute. Je voudrais qu'on saute une étape et qu'on passe à autre chose, qu'on redistribue les cartes autrement. Entre hommes et femmes et autres.
Alors, je ne sais pas si ça sera facile de passer l'étape. En tout cas, je voudrais vous faire écouter les propos d'Elisabeth Badinter à propos du voile. On sait que le débat réagite le champ politique, le champ médiatique, le champ aussi enseignant. On en débat beaucoup et ce n'est que le début puisque nous sommes déjà en pré-présidentiel. Et hélas, l'épouvantail du voile est souvent brandi. Écoutons les propos d'Elisabeth Badinter, c'était le 7 février 2017.
Je pense que c'était l'argument psychologique le plus fort utilisé avec beaucoup de finesse psychologique contre ceux qui défendaient la laïcité. En ce qui me concerne, mon objectif aujourd'hui, c'est de venir, si vous voulez, en aide, manifester ma solidarité aux femmes qui ne veulent pas se plier au canon de la religion islamique. Voilà, c'est mon combat. Et donc, elles en appellent justement à la laïcité, au respect de la laïcité. Et je suis là pour les soutenir.
Le port du voile, par exemple, Elisabeth Badinter, c'est un asservissement ou c'est une liberté faite aux femmes?
Ça peut être les deux, parce qu'il y a certaines femmes qui le ressentent comme une liberté, et il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas le choix, voilà, qui n'ont pas le choix, et sur lesquelles pèse une pression très forte, parce que si elles ne mettent pas le voile, ce sont des impudiques, je m'excuse du terme, ce sont des putains, elles sont, comment dirais-je, persécutées, harcelées. Et donc, elle se conforme à la loi prônée par la famille, la mosquée, les prêtres, les imams dans tout genre. Je ne considère pas que ce soit l'exercice de la liberté. Je pose une seule question qui va... C'est que si on ne veut pas faire Ramadan dans certains lieux de France, est-ce encore possible? Voilà.
Alors, nous n'allons pas répondre à cette question qui est complexe en fin d'émission, mais par contre... Moi, je voudrais, comme dernière question, poser à Camille celle qu'elle pose à la toute fin de son ouvrage. Vous voulez, Camille, dépatriarcaliser la corporité féminine. Comment faire? Est-ce que ça passe, justement, par l'abolition du voile dans l'espace public, le maintien de l'abolition du voile dans l'espace public, une lutte contre le voile et contre l'effacement des visages et des corps des femmes dans cet espace?
C'est vraiment... une question tellement compliquée, j'imagine seulement quelques secondes pour en débattre. Moi, je voudrais dire que la laïcité française, dans son inspiration originelle, qui est celle de la loi de 1905, n'est en rien opposée au fait que les femmes puissent porter le voile dans l'espace public, puisqu'il s'agit de liberté religieuse et de neutralité étatique. C'est deux choses qui se tiennent ensemble. Je crois que ce qui est important, c'est de faire le crédit aux femmes de la réflexivité et de la liberté. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui pensent à la place des femmes, en l'occurrence de ces femmes voilées, c'est toujours quelque chose, moi, qui me pose problème. Je me demande ce qu'Elisabeth Badinter connaît de la vie de ces femmes. Et j'ai envie de passer la parole à Inès, qui la connaît sans doute encore mieux, enfin, beaucoup mieux que moi.
Merci beaucoup.
Alors, le mot de la fin, Inès, il sera philosophique, puisque à la fin de votre ouvrage, vous en appelez à une impasse dans le genre et à un poros philosophique pour penser notre condition féminine.
Alors, je vais répondre par Aletheia. Par le dévoilement, mais ça c'est une réponse disons philosophique et un peu courte. Sinon je peux aussi répondre que ce qui est intéressant c'est le rapport entre le voile et le corps. Je crois que c'est ça qu'il faut interroger. La peau en fait, le rapport à la peau qui est aussi intérieur et extérieur. Donc déplaçons peut-être la question du voile à une question qui est plus entre l'objet et le sujet. La femme est-elle objet? La femme est-elle sujet? Et qu'est-ce que le voile fait d'elle? Est-ce qu'il fait d'elle un sujet ou un objet?
Ben merci les filles, bravo les filles, merci pour ces deux ouvrages. Donc Inès Orcani, Gazelle Théorie vient de paraître aux éditions Pauvert et c'est aussi un poème. Et vous, Camille Froidevaux, Maîtrie, votre livre est à la fois un récit, un essai philosophique et politique féministe, un magnifique livre qui s'intitule Un corps à soi et qui vient de paraître aux éditions du Seuil.
Que mes pieds se sont brisés, le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds, ça y est le
Et c'est avec la voix de Laura Cahen que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Benjamin Troncin qui est à la régie technique. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanissian. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka pour son début de semaine de Very Good Trip.